Bon, eh bien, je pense que ça me paraît le moment idéal pour lancer la
Ah.
rubrique de l'invité.
Tatin.
Et là, jingle pourri, tout ça.
La rubrique de l'invité.
Oui, ça s'est un peu piqué à vous, mais...
Putain, je suis encore mort. Tu fais vraiment extrêmement enculé, quoi. La haine du rôliste, enfin du joueur envers le maître du jeu, quoi. Il peut pas avoir se déclarer. Qui n'a jamais eu dans une partie une petite engueulade vite fait bien fait, quoi.
Mais non, mais je suis pas mort là. Attends, en plus j'avais dit que je la prenais la torche.
Parce que si on parle de mauvaise foi, je pense que dans le monde du jeu de rôle, quand on joue, ça peut exister. Hein.
Ah, non, oui. Jamais vu ça moi.
Non. Non, parce que t'étais le joueur.
Ma technique à moi, et malheureusement il me repère, c'est de commencer à utiliser des techniques narrativistes dans un jeu qui est simulationniste. Du coup, je dis, bon, et, alors là, je fais un demi-tour, je dégaine mon sabre, je coupe la tête du type à gauche, je donne un coup de pied dans le type à droite,
ouais.
Et je saute par la fenêtre.
C'est clair. Et j'atterris sur un matelas. Non. Ou sur un cheval qui m'emmène très loin, avec plein de lingots d'or derrière.
Si tu l'amènes assez bien, tu peux éviter quelques jets de dés.
Ça peut marcher, mais à Wushu par exemple.
Ouais, ouais. Oui, ça peut marcher. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est le genre de méthode. Bon.
Je sais pas si tu connais le jeu qui s'appelle Wushu.
C'est un jeu de Kung Fu.
C'est l'art ancestral du jeu de rôle d'action.
D'accord.
Et en fait, dans ce jeu de rôle, c'est. Si tu dis je sors mon flingue et je tire, tu lances un dé pour ton action. Si tu dis je fais un quadruple saut en arrière, je donne un coup de pied dans le mec qui est à gauche, je décapite le type qui est à droite, puis je tire en face sur le grand méchant, ma balle rebondit contre le lustre et va le toucher, donc ça te fait 5 dés.
Ouais.
Donc plus tu décris de choses, plus ton action sera éclatante. Et donc ça donne des scènes complètement surréalistes,
ça,
et c'est vraiment
drôle.
C'est fait pour.
Ouais,
c'est fait pour ça. Faire des films d'action de Hong Kong.
Ouais. Mais c'est bien ça, ouais. Enfin bon, c'est une façon.
Alors donc nous allons passer à toi maintenant. Car oui c'est puisque
Hello
c'est, puisque c'est ta rubrique.
Bonjour Cyril, bonjour Cobal, comment ça va?
Bonjour.
Je suis là, c'est Manox, voilà.
Que je te présente, donc il faut que je te présente quand même un peu plus à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore.
Ouais.
Donc tu fais partie de l'équipe de l'apéro du capitaine, donc,
ouais.
Qui a un podcast bien connu. Qui est là d'ailleurs où je t'ai entendu pour la première fois. Tu es également illustrateur et auteur de bande dessinée.
Auteur de bande dessinée, j'ai fait une bande dessinée, hein, mais c'est pas vraiment. C'était un peu l'occasion plus qu'autre chose. Quoi.
Qui faisait le larron.
Ouais, ouais.
Elle parle de quoi cette bande dessinée?
C'était une BD avec une copine, c'est une petite BD humoristique qui s'appelle Todoloco, voilà. Et
mais c'est amusant parce que c'est peut-être une coïncidence, mais ça fait penser à l'espagnol. Tu sais, Todo, ça veut peut-être dire tout et loco, fou.
Exactement, c'est ça.
D'accord.
Et puis, on dessinait à l'époque. Enfin, je dessinais ça à l'époque, et puis on s'était dit qu'on allait trouver un moyen pour bosser et tout ensemble. Et puis on a fait ce truc, et puis voilà, c'est tombé. Et moi, sinon, je fais.
Et en fait, c'était une tactique pour rapprocher le.
Je peux avoir une dédicace.
Pour l'approcher, et puis ça n'a pas marché, du coup.
Non, c'était elle qui faisait une tactique. Pour...
Ah, d'accord.
Oh, je peux l'avoir. Je faisais une dédicace.
Ouais, il y avait une critique de Bodeuil là-dessus.
Non.
Ouais.
Et c'est en couleur.
C'est en couleur, c'est un petit éditeur sorti il y a 2 ans maintenant. C'est des petits dessins, c'est pas du tout ce que je dessine d'habitude. Hein. C'est des dessins style humoristique, un peu mignon, un peu strip, tu vois.
Ouais, parce que j'ai... En fait,
et c'est
en,
de l'humour
en
un petit peu cracra, débile.
Mais en fait, quand
ça marche bien chez les adolescents, ça, par exemple.
Quand j'ai regardé tes dessins, en fait, moi, ça me faisait penser à du Villemain.
Ah oui, c'est peut-être pas aussi dégueulasse que Villemain, mais bon.
En fait, c'est surtout en me rappelant la grosse que t'as dessinée pour le site de poker.
Ah oui, exact.
Ligne,
ça
me fait un peu penser.
C'est quand même spécial, hein. Enfin, là, je vois casque noir en train de sodomiser une espèce de d'ours blanc, je sais pas quoi.
De Yeti.
Oui, alors, ouais. Alors en fait, c'est Todoloco tome 1, la mécanique générale. Et en fait, ouais, effectivement, il y a le fils caché de Dark Vador est là-dedans, qui s'appelle Dark Vadox. C'est donc un nain exhibitionniste, doté d'un micro-pénis, obsédé sexuel.
En plus.
Voilà.
D'accord.
Et le Yeti, c'est un Yeti qui est alcoolique. fan de Elvis Presley.
Voilà. Elvis Presley is là.
Alors je précise que c'est pas moi qui fais le scénario, hein, c'est c'est Lolita.
Je peux citer une, oui, une alors, le début d'une page. Hein, alors le titre c'est On choisit pas sa famille. Deux sœurs, une grande, une petite, je suppose, sont sur un canapé. La grande sœur dit tu veux une blague? Oui. Oui. Tu sais comment un enfant meurt? Non. En se plantant un couteau dans le ventre. C'est spécial.
Voilà, c'est un peu le genre d'humour, quoi. Voilà. Donc.
Et c'est une obsession d'avoir que des X à la fin de tous les noms des personnages.
En fait, c'est une référence foireuse à
Gilux.
Non, à Astérix et Obélix. Ah. Sauf que là, il y a pas de jeu de mots. C'est juste que ça finit en X. Ça n'a pas de sens. Okay. Sinon, celui-ci, quoi. Donc voilà, donc merci de m'accueillir ce soir.
Et alors tout de loco,
c'est un plaisir.
Juste pour la référence, on peut l'acheter dans les boutiques de bande dessinée, je suppose. Ou
alors et on le trouve plus maintenant parce que je crois que c'est une petite édition qu'on avait presque plus, mais on peut encore l'acheter sur le site de la Fnac ou sur Amazon. Voilà, sur Amazon aussi quoi. Voilà, tout de loco tome 1. Et vous allez voir, c'est amusant.
J'ai trouvé que l'esprit était quand même super trash. Déjà, dès la première page, oh oui, c'est un monde merveilleux, machin, tout ça. T'as un panneau où c'est ici, monde merveilleux, en gros, et la petite fille, elle l'arrache, elle saute dessus, elle met à place un panneau plutonium ou je sais plus quoi.
Quarantaine, zone irradiée.
C'est possible, ouais. Ça, c'est ma pote Lolita qui a fait le scénario, donc c'est elle qu'il faut se plaindre pour les trucs honteux. Voilà, mais c'est ça la vraie enfance, hein. C'est là-dedans. C'est pas les trucs un peu plus propres.
Ouais,
c'est ça l'enfance.
Oui, bah, en fait, c'est Stephen King qui dit que l'enfance a un goût de miel et d'acier.
Ah, c'est pas mal.
Et je trouve que c'est assez vrai.
Miel et d'acier?
Oui, et d'acier. Comment ça? Bah, parce que pour le côté super violent, tranchant, brutal, et enrobé d'un petit peu de miel.
De sucre.
De sucre, voilà.
Le côté un peu savoureux, quoi.
Oui, voilà, qui fait que ça passe alors que c'est d'une violence extrême.
Ouais.
Parce que si on avait les mêmes relations sociales que les enfants, ce serait la guerre.
Bah, en fait, il me semble que c'est déjà le cas. Quoi. C'est le problème.
Alors, donc, je t'ai repéré et je me suis dit, ce type-là, c'est un rôliste.
Ah bon ?
Parce que en écoutant donc l'apéro, au moment où il y avait l'enquête de Pistou l'écureuil.
Oui. Effectivement.
Parce que ça ressemblait quand même vachement à du jeu de rôle.
Ouais. D'ailleurs, on avait fait un micro jeu de rôle avec une petite musique en fond, genre médiéval fantastique, dans un épisode de l'apéro, je sais plus c'est lequel.
Oui.
Et voilà, où ils mouraient tous à la fin, c'est normal, il y avait un dragon, et puis voilà, et puis il y avait aussi un truc où ils se faisaient sodomiser. Enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais bon.
Et donc, comme j'avais mes antennes de rôliste de dresser à ce moment-là, je me suis dit, ah, ça doit valoir le coup. Et donc, d'où ta présence ici ce soir.
Oui.
Et donc, alors voilà, j'aimerais un peu savoir, alors toi, t'as commencé comment, à quel âge, tout ça?
Alors moi, j'ai commencé il y a... En fait, le jeu de rôle, j'avais connaissé un tout petit peu quand j'étais un peu plus gosse. C'était quoi? J'étais peut-être en 6e ou en 5e, c'était la fin des années 80, c'était 88, 89, c'était comme ça. Et donc là, il y avait le copain d'un pote, enfin, le frère d'un pote qui m'avait initié un peu à ADD. Et Donjons et Dragons, je sais même pas si c'était un
mais des premières éditions.
Voilà, donc moi j'étais encore un peu dans les bouquins, tu sais, dont vous êtes le héros. Donc je comprenais pas très bien le truc et tout. Et puis alors j'étais mort rapidement, et puis j'ai fait oh, bah, c'est nul ce truc là et tout, etc. Et puis finalement, des années plus tard, quand j'ai commencé à avoir 17-18 ans, et j'ai rencontré des gens qui faisaient ça. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est quand même pas mal, c'est assez marrant ce truc, on peut faire plein de trucs, on peut rigoler, on peut jouer.
C'était toujours du donjon.
Non, étrangement, j'ai commencé, la première partie, c'était Cthulhu, l'appel de Cthulhu.
Ah oui, ça c'est.
Et c'était un peu le jeu auquel on jouait à l'époque, il y avait Innominé Satanis.
Ah oui, première édition.
Ouais. Bitume, puis après j'ai beaucoup aimé un jeu qui s'appelle Cult.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Un jeu particulièrement un peu complexe parce que le personnage que tu vas jouer, c'est un personnage qui est malade mentalement parlant, donc qui a accès à une autre réalité qui est en réalité la réalité dans laquelle on vit,
qu'on retrouve un petit peu cette idée de double réalité de vision dans le Changeling.
Ah oui, 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 tout à fait, ouais. Ouais,
tout à qui, fait. Qui est un jeu aussi qui est extrêmement intéressant, ouais. Qui n'est pas forcément évident à mettre en place pour bien comprendre les actions qu'on fait, qui sont à la fois dans la réalité, à la fois en dehors de la réalité. Ouais. Mais
il y a une espèce de ouais. double... Bah, d'ailleurs, les changelins, je crois qu'ils peuvent basculer dans le monde féerique.
Exact, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, chaque, le personnage est, est une personne normale, entre guillemets, et c'est aussi une fée, en fait.
Tu avais joué à quelle version de changelin? La version The Dreaming ou The Lost? Enfin, le rêve ou la version...
Non, le rêve.
D'accord. La première...
La première version. Ouais. Il me semble que c'est la première version, ouais.
La première version où c'est vraiment centré sur le côté les elfes, mais
c'est des sortes de fées, quoi.
Oui, ça, vraiment le côté féerique dans ce sens-là.
Oui, c'est les, ouais. avec les deux cours, les Silly, les Unsilly, les deux cours féeriques positives et négatives, et où en fait l'accès à la féerie se rouvre au moment où l'homme pose le pied sur la lune parce que l'humanité se remet à rêver, en fait.
C'est ce qui permet... Je sais pas si c'est un jeu qui a très bien... Enfin, sur la gamme White Wolf, il y avait Vampire. Ouais. C'est La Mascarade qui était le jeu... Enfin, qui est peut-être leur base,
phare,
quoi, je pense. Quoi.
Le jeu phare de la...
Il y avait aussi Werewolf,
Mais Changelin avait peut-être moins de fans, mais ils étaient assez fans.
Ouais,
je pense.
Et bon, après j'ai joué à d'autres jeux.
Le problème de Changelin, je pense, par rapport aux autres jeux, c'est que c'est un monde un peu à part. C'est un peu comme Wrath, quelque part, autre jeu du monde des ténèbres. Les vampires, les loups et les mages, les loups-garous et les mages, quelque part, ils vivent dans le même monde. Alors que les Wrath et les Changelins, ils ont vraiment une autre réalité, etc. On s'est bien d'accord, les loups-garous, les mages peuvent aussi se balader. Mais globalement, le gros de l'action se passe dans le monde réel. Pour les changelins, c'est moins évident. Il y a tout ce monde que eux seuls peuvent voir. Et si un changelin se trouve avec des pas changelins, par exemple, ça fait un peu le type qui a des visions.
C'est ça. Et c'est un mec qui est complètement décalé, de toute façon. Quoi. Enfin, c'est la partie un peu complexe du jeu, à mon sens.
Alors, je te conseille, si tu as l'occasion, de regarder l'édition qui sont sorties dans le reboot, tu sais, du Monde des Ténèbres après 2005.
Quand ils ont fait Vampire Requiem.
Ils ont fait Changeling The Lost, donc qui a pas été traduit en français, si je ne m'abuse, et qui est vraiment super bien. Je suis un gros fan. Hein. J'ai lu les deux, The Dreaming et...
Si tu laissais notre invité parler un petit peu.
Pardon, oui, j'ai vu.
Non, moi je dis ça.
Non, mais c'est bien parler de jeux comme ça. Mais, et donc après, j'ai joué à cette époque-là, j'ai joué à pas mal de jeux. C'était les jeux vraiment un peu phares de l'époque. Hein. Il y avait Shadowrun, auquel j'étais maître du jeu pendant pas mal de temps. Et un petit peu de mage, mais alors à peine, parce que j'avais créé des fiches de perso. C'était pas moi le MD, moi j'étais un joueur et tout. Bon, ça s'est assez vite avorté. Vampire, j'ai fait quelques GN de Vampire qui étaient assez rigolos. Moi j'aime bien ce jeu.
Tu jouais à Bruja avec un jean?
Non, en fait, je jouais effectivement à Bruja, mais qui était, comment on appelle ça, c'est les types les yeux verrons. Voilà,
qui a un œil vert, un œil bleu,
ouais, qui avait un pied de biche, et c'est ça ce qu'il avait en fait. Il était un peu bipolaire.
Une lentille ou comment tu faisais?
Non, j'ai pas besoin.
Tu disais, tu vois, mais en fait j'ai les yeux verrons.
En fait, c'est maintenant que je mets une lentille, c'est pour ça. Oui, parce que voilà. Et sinon, il y avait Culte, RunQuest, un peu Bloodlust.
Bloodlust,
et c'est marrant parce que Bloodlust, c'est un jeu qui est perçu comme un jeu bourrin et qui finalement n'est pas tant que ça. Et parce qu'il y a un aspect social dans le jeu qui est assez intéressant, qui est un petit peu mal perçu parce que bon, c'est les armes dieux, donc tu prends une arme, ça y est, tu deviens un balèze et tout, etc.
Et comment il se développe ce côté social?
Mais par rapport au monde, c'est-à-dire que par exemple, si t'es un vulgaire guerrier, il y a la caste au-dessus, et comment est-ce que tu fais si tu veux pour avoir le pouvoir, réellement pour être puissant? Tuer plein de mecs, c'est bien, mais enfin, au bout d'un moment, il faut quand même que tu deviennes un peu le roi. Donc, si t'es un espèce de crétin qui sait ni lire ni écrire, qui a une grosse arme, qui fait 50 000 trucs, ça ne servira pas à grand-chose, quoi. Et voilà. Et après, j'ai aussi joué à un jeu. Alors, je voulais en parler de ce jeu-là, un jeu que je pense que beaucoup de gens ont oublié, qui s'appelle Raoul, le jeu qui sont sous les bras.
Ah oui,
c'est celui-là dont je parlais. Oui, Larsenet, effectivement, qui faisait l'illustration.
Par les frères Larsenet.
Ah, c'est frère Larsenet qui avait fait le jeu. C'est,
en fait, tu as l'auteur du jeu était Patrice Larsenet, qui est, il est coloriste maintenant.
Ouais.
Et son frère faisait donc les dessins, les dessins du jeu. Oui, ouais. J'ai joué à ce jeu à l'armée.
D'accord. C'est rigolo quoi. Oui. Mais c'est le genre de jeu dans lequel tu peux vraiment, si t'es en. Voilà, t'es avec 3-4 potes, tu picoles un peu, c'est la fin de soirée et tout, t'as envie de déconner. Tu peux faire des trucs assez absurdes quoi.
Tu peux faire un Raoul Ricard.
Voilà. Donc c'est ça, je crois que ça faisait même pas 10 pages, hein, je crois que t'es comme ça le maître du jeu. Et Star Wars aussi, mais alors Star Wars, c'est vrai que j'ai un jeu avec lequel j'ai eu un peu de mal.
Ah ouais?
Un petit peu parce que peut-être parce que je connaissais déjà un peu l'univers et du coup c'est pas que ça te bloque mais moi j'aime bien Star Wars mais
tu savais qu'à la fin l'étoile noire explosait donc tu disais c'est même pas la peine.
Bah surtout je me disais que c'était moi qui allais les faire exploser. Non, j'ai une bonne souvenir de partie où on faisait la chasse à l'Ewok où je m'étais fait des belles mitaines.
Vous avez dépecé des Ewoks?
Ah ouais, on avait fait une chasse à l'Ewok. Très belle partie. Je m'étais fait des belles mitaines, j'avais revendu le reste, j'avais essayé de faire des sacs à main et tout. Ouais, bah, c'est ça que j'aime bien dans le jeu, si tu veux, c'était sortir un peu du contexte du jeu qui était déjà un peu organisé quand t'as un manuel de maître du jeu. Mm-hmm. Et Pampron Quest, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a un truc un peu d'ouverture là-dedans qui est assez intéressant. Dans le sens où finalement est-ce que tu peux jouer quelqu'un si tu veux qui ne fait rien, enfin rien, c'est-à-dire qu'il va faire des choses mais qu'il peut juste faire des choses de la vie quotidienne par exemple.
Mmh. Bah, dans RunQuest toi tu commences tes fils de fermier.
Ouais.
À la base. Enfin, ouais. Sauf si tu avais fait un 100 OD que t'es devenu un sorcier ou je sais pas quoi, mais ouais. Un fils de sorcier mais généralement ouais, t'es...
Alors comme j'ai dit j'ai beaucoup masterisé une époque Shadowrun, ouais. Qui pour moi était quand même un bon jeu. Maintenant, je serais peut-être un peu plus critique par rapport au jeu parce que.
Par rapport à quoi? Par rapport à l'univers, les règles, le.
Les règles, parce que moi, c'est vrai que quand il y avait trop de règles, ça commençait à me prendre un peu la tête, donc.
Oui, et puis là, Shadowrun.
Ouais, c'est-à-dire que le problème, c'est que quand t'as 4 mecs qui jouent avec toi et qu'ils font. Je tire! Ok, alors tu vas faire 72. Donc ça veut dire que tu multiplies ça par je ne sais combien de dés quoi.
Du coup tu proposais à tes joueurs tu veux pas négocier plutôt, ben c'est pas l'esprit du jeu donc.
c'est-à-dire qu'un jeu comme Shadowrun effectivement la négociation c'est bien mais l'action c'est quand même beaucoup axé action donc.
Ouais, c'est quand même pas le cœur du jeu quoi.
Non mais il est bien ce jeu hein. Moi je trouve il est cohérent, il y a un univers et tout etc. Et après j'ai rencontré un type qui jouait qui m'a fait jouer un peu à Bloodlust et qui lui voyait le jeu un peu de manière différente. Et puis je me suis dit bah tiens voilà on a créé un petit système de jeu et on va et pourquoi pas faire nos propres histoires, nos propres univers quoi. Et puis là j'ai commencé à jouer avec beaucoup moins de joueurs, peut-être là où j'étais essentiellement maître du jeu.
Ouais.
Et on était même en tant que joueur, on était peut-être un groupe de 3-4 et là c'était axé beaucoup sur le role playing, donc ça veut dire qu'on avait des fois des parties qui duraient 7-8 heures et on tirait pas, presque pas un dé quoi.
Ouais.
Et pourtant, on aimait aussi beaucoup les scènes d'action. Ça veut dire que la partie d'après, on tirait plein de dés. Et moi, c'est là où j'ai trouvé que le jeu de rôle, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'assez ludique, finalement, dans la conception. C'est-à-dire que qu'est-ce que ton personnage, qui il est et qu'est-ce qu'il veut faire et comment il va arriver à ses fins, entre guillemets, quoi.
Uh-huh.
Est-ce que la méthode uniquement te dire, voilà, j'ai mes compétences, et mes compétences vont me permettre d'arriver là, ou est-ce que ça peut être aussi des méthodes un peu dérivées qui sont un peu plus réalistes, entre guillemets, dans le sens où qui est la personne en face de moi, quel est le PNJ en face de moi, comment il est, est-ce que je peux le charmer, est-ce qu'il peut avoir de l'amertume envers moi, est-ce qu'il peut avoir, quelle est la relation, quoi.
Uh-huh.
Et
est-ce que je peux négocier, est-ce que je peux l'acheter, est-ce que je peux
oui ou même est-ce qu'il peut tomber amoureux de moi par exemple et profiter de lui.
Ouais, c'est souple, on peut, c'est ça ouais. La magie, enfin, et ce qui est magique c'est aussi quand le scénario prend une direction qu'on n'a pas imaginé justement à cause de cette liberté.
Ouais. Bah souvent en fait moi après ce que je faisais c'est que on crée l'univers de nos jeux et il y avait des lignes directrices, il y avait des points importants pour être puissant. Mais il n'y avait pas de scénario à proprement parler. Donc, bon, j'imagine que pour quelqu'un qui débute, c'est pas une bonne méthode parce qu'il faut quand même un petit peu t'orienter. Mais au bout d'un moment, je trouve ça bien de te dire qu'est-ce que ton personnage veut faire, quoi. Parce que c'est bien gagner plein de pièces d'or, d'avoir un beau château, un beau cheval, une belle meuf et tout, mais ça va pas te mener très loin. Et quand tu veux commencer à rentrer dans le jeu, tu découvres quel est le point vital du jeu et quelle est l'importance que va avoir, quel impact en fait va avoir socialement ton personnage dans le jeu, quoi.
Ouais. Voilà. C'est à partir du moment où il atteint certains statuts, en tout cas, où justement son importance sociale a un sens, en fait.
Voilà. C'est pour ça que moi, par exemple, Donjons & Dragons, c'est un jeu qui m'a toujours... Enfin, je trouvais l'univers vachement bien. Bon, c'est un des premiers jeux de rôle. Peut-être le premier jeu de rôle, je sais pas, non. Et...
Il n'y en a pas eu un avant, non ?
Avant Donjon, bah non.
Certainement, mais...
Il y a Chainmails.
Tunnel et Troll, c'est...
Non, c'était contemporain de D&D.
D'accord. Enfin, oui, bon, d'accord.
Enfin, il est né après, mais il s'est popularisé en même temps que D&D.
Je t'ai même pas né.
Il y a eu avant D&D, il y a eu Chainmail, qui était le premier jeu de Gygax et Arneson, avant qu'il ne crée D&D.
Voilà, donc...
Là, pour ce petit point historique.
C'est vrai que maintenant, je joue moins au jeu. Je sais pas, c'était parce que, avec le temps, je sais pas.
Ouais, d'ailleurs, comment est-ce que... Pourquoi est-ce qu'on arrête, finalement ?
C'est une bonne question. Moi, personnellement, c'était, je pense, à un moment donné, parce que j'avais une forme de lassitude, un petit peu, en tant que maître du jeu.
Ouais. Mais lassitude de quoi, en fait?
Peut-être un petit peu d'automatisme qui peuvent rentrer quand tu joues, quoi. Et surtout quand tu joues un petit peu souvent avec les mêmes personnes. Tu vois, je sais pas, tu joues avec quelqu'un et cette personne-là, ça fait 5 ans que tu joues avec, elle a fait 50 fiches de personnages. Et t'as des souvenirs déjà de jeu avec cette personne.
J'ai l'impression de tourner en rond, quoi, un peu.
Bah ouais, un petit peu, où tu sais plus trop exactement ce que tu veux faire, quoi. Et peut-être pour ça, je pense.
Mais alors, dans ce cas, il faut juste changer de joueur.
Oui, mais c'est vrai, c'est pas complètement faux. Moi, j'avais changé de joueur, et mais là aussi, je revenais après dans mes propres automatismes.
Ah. Donc,
mais je pense que ce qui est bien maintenant, j'ai trouvé une méthode un petit peu, c'est que je fais des jeux qui... Enfin, je fais juste des petits scénarios pour une soirée. Et c'est complètement scénarisé, c'est pas linéaire, mais c'est scénarisé, il y a un truc, il y a un début et une fin, grosso modo.
Du one-shot, quoi.
Ouais, du one-shot, et ça, je trouve ça plutôt sympa, quoi. Je trouve que quand on a un peu joué et qu'on vieillit un peu, quand on a commencé à avoir, voilà, moi j'ai 35 ans, tu vois, ah oui, bah tu...
Oh, il est jeune.
C'est quoi?
Non, c'est dégueulasse, il a mon âge, mais il paraît plus jeune, c'est dégueulasse.
Ça, c'est vrai.
C'est le Botox. tu vois, t'as envie de te marrer pendant la soirée, quoi. T'as pas envie de te dire t'as envie le personnage avec les mecs avec qui tu joues, ils ont une durée de vie et tout, etc. Mais tu dis, ouais, bon, ça va être plus marrant, on va faire un truc un peu plus intense, et puis voilà, quoi.
Ouais. Pour toi, tu t'estimes heureux de pouvoir jouer au jeu de rôle durant la soirée. Tu sais que ça va pas durer, donc tu dis, il faut que ça se passe ce soir ou jamais, quoi.
Mais c'est un peu ça, ouais. Non, c'est clair. Et voilà. Mais bon, j'aimerais bien rejouer un petit peu plus. Là, je vois qu'il y a plein de bouquins et tout. Ça donne envie à chaque fois de lire, de regarder. Est-ce que c'est toujours intéressant de voir plein d'univers mais je pousserais peut-être un peu aussi les gens à se dire s'ils ont des idées, s'ils ont envie de faire des trucs. C'est pas si... Enfin, quand on a joué un peu, on sait que c'est pas si compliqué à mettre en place, quoi. Ça peut être un peu long, mais c'est pas si compliqué.
Toi, t'es plutôt impro ou justement scénario suivi
Il a déjà dit, en gros, t'as peut-être quelques notes ou quelques idées pour un scénario,
ouais, mais
après, et t'as des points clés par où passer, mais...
Mais comme il disait, il parlait justement de parties scénarisées. Alors après, jusqu'à quel point tu scénarises, en fait?
Ça dépend. Par exemple, moi, j'avais fait un jeu avec un ami, en fait, qui était tiré avec deux copains qui étaient tirés de la bande dessinée Pepe Moreno qui s'appelle Rebelle. Et c'est un futur post-apocalyptique dans une ville.
Ouais.
Où il y a une partie, en fait, la ville est encerclée, il y a une partie de la ville qui vit complètement dans l'apocalypse, une autre partie qui vit très richement, qui est complètement, tu vois, possédante et tout, très puritaine, quoi.
D'accord.
Et donc là-dedans, là-dedans, il n'y a pas forcément beaucoup de scénarios à avoir, mais il y a un objectif, c'est-à-dire que les gens veulent sortir de la ville.
D'accord.
Voilà, c'est plus des objectifs, en fait, plus généraux, moi, que je voyais quand je jouais. Et c'est vrai que, par exemple, dans des jeux comme Shadowrun ou même comme Cthulhu, finalement, on se retrouve toujours un petit peu, je trouve, bloqué à un moment donné dans le sens où on se dit, mais en fait, mon personnage ne pourra jamais rien faire de plus que survivre un petit peu, entre guillemets, quoi.
Oui, enfin...
Ah, pas d'accord.
Il peut arrêter l'apocalypse.
Alors, oui, non, mais c'est ça l'idée.
Cthulhu, c'est vrai que c'est difficile, mais...
Il y a plein de jeux, je sais
que j'avais des camarades d'un club de jeu qui avaient des personnages de Cthulhu qui avaient survécu beaucoup d'aventures et qui avaient... voilà, qu'ils n'avaient certainement pas l'intention de lâcher devant un quelconque Yogot ou je sais pas quoi. ils voulaient qu'ils survivent, quoi. Pour eux, il n'y avait pas de raison que ça change. Ils avaient des projets avec ça. Ils pouvaient faire peut-être un petit peu de magie, si ça se trouve. Un petit truc qu'ils avaient grappillé. Sur Shadowrun, quand ton personnage survit un certain temps, bah, tu fais des projets. J'avais un copain, il avait voulu monter sa propre compagnie de mercenaires, etc.
Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Dans le sens où les personnages ont...
côté bac à sable. Ensuite, tu fais ce que tu veux. Tu échappes, tu sors du cadre de la mission, etc. Non ?
Ah oui, mais clairement, ouais. Mais moi, je me suis retrouvé des fois avec des joueurs. En fait, j'étais un peu embêté, entre guillemets, dans le sens où le joueur, il avait sa meuf. Et puis, en fait, il allait... il était avec sa meuf et puis il faisait des trucs et d'autres trucs. Et finalement, en fait, il jouait à un jeu. Il jouait dans le jeu, mais il jouait...
Sans s'impliquer, mais je comprends.
Sans s'impliquer complètement.
En fait, tu parlais tout à l'heure de...
En fait, il aurait fait un jeu de plateau, ça aurait été la même chose, finalement.
Ouais, c'est une façon légitime de jouer au jeu. Il profite peut-être pas au maximum des potentialités du jeu de rôle, du format, mais en même temps...
mais c'est vachement bien, ça.
Il est fatigué. Le jeu de rôle remplit la fonction... de divertissement pour lui, quoi. Enfin,
moi je trouve que
ça en fait pas une œuvre d'art, ok. Il fait pas un truc extraordinaire, mais
effectivement, voilà, c'est un peu paradoxal, mais moi je trouve effectivement que ça, là on est dans le jeu de rôle à proprement parler, sensiblement parler, je veux dire, c'est il joue un rôle, quoi.
Oui.
Mais je trouve que c'est intéressant de se dire que le personnage va jouer un rôle clé dans l'univers dans lequel il est. Il doit être ambitieux, entre guillemets, quoi. Mais vraiment ambitieux, c'est-à-dire qu'il doit être le plus important de l'univers, quoi.
Il souhaite, et en plus, surtout, il le souhaite. C'est-à-dire que ça lui tombe pas tout cuit, ou il est pas l'élu, ou un truc comme ça. C'est juste la volonté qu'il y a derrière d'aller plus loin et de devenir roi ou machin.
Ouais, c'est un point de vue, mais
parfois, on peut marcher dans la rue et se dire, ah, mais pour cette personne-là, lui-même est le centre de l'univers. Et est-ce qu'on dit la même chose pour nos personnages? Pas forcément. Ça vous arrive jamais?
Si, non, c'est vrai. Ouais.
Tu dis, mais en fait, ce type-là, il croit qu'il est sur des univers alors que c'est moi.
Oh, le con.
C'est vrai, ouais. Non, mais c'est un autre débat, ça. Mais c'est un peu mon expérience en tant que joueur, maître du jeu.
En fait, c'est un petit peu ce dont on parlait la dernière fois quand on parlait du big model. C'est que. je fais une crise de narrativisme. je ne sais pas si tu connais le big model. À mon avis, ça m'étonnerait. Le big model, en fait, c'est une théorie qui permet en fait de qui permet d'expliquer tous les d'expliciter en tout cas les mécanismes du jeu de rôle.
Ouais.
Et il dit, le mec qui a écrit ça, il dit par exemple le ce qui englobe le tout, c'est le contrat social, c'est-à-dire le fait que on est tous là pour jouer ensemble à un jeu et qui soit de tel type. Et il dit, par exemple, il y a des gens qui viennent à des parties de jeux de rôle, mais qui sont super passifs. Et finalement, ils sortiraient en ville pour boire des coups avec des potes. Finalement, ce serait, pour eux, ce serait aussi profitable. Ou en tout cas, ils n'en attendent pas plus, si tu veux.
Ah oui, oui, oui. Ouais.
Et du coup, quand tu parles justement d'ambition, de personnage et tout ça, ça nécessite un degré d'investissement qui n'est pas forcément celui de tous les joueurs, ou en tout cas pas tout le temps, quoi.
Absolument, mais c'est pour ça que c'est un jeu de rôle, quoi. C'est parce que moi tous les personnages que j'ai fait, c'est des personnages qui sont à l'opposé de moi, quoi. Enfin, je veux dire, moi je vais dehors, je me bats avec un mec, a priori je me prends de patates et je suis par terre, quoi. Genre, je vois un mec qui soit balèze, quoi. Qui a pas une merde, tu vois, qui arrive dans un bar, un mec le fait chier, il hausse le ton et ça y est, c'est, tu vois.
Alors que même si tu joues à Maléfice, ton personnage va être un haltérophile.
Oui, c'est vrai.
Un haltérophile à moustache avec un costume rayé, tout ça, tu sais, dans les.
Non,
dans
mais
les
c'est.
Foires,
mais, ouais, après, bon, il y a toujours les profils de joueurs qu'on connaît. Il y a toujours le type toujours se sentir un petit peu comme le joueur qui joue ou l'autre qui va faire quelque chose de complètement différent.
Oui, en fait, c'est soit on colle à sa propre personnalité en exacerbant des points, des points de soi, quoi. Soit on fait vraiment l'extrême opposé, on fait des types super violents, con comme la lune, enfin bref.
Les personnalités des personnages sont pas forcément les mêmes parce que une fois on veut peut-être valider un comportement entre guillemets, hein, c'est inconscient, mais un comportement favori, oui, tester autre chose,
un comportement social par rapport au reste du monde pour voir ce que ça donne d'être comme ça, quoi, en fait.
Ouais, c'est pour ça que je pense que le maître du jeu est là pour veiller au grain, pour pas que ça parte en couille complètement. Mais moi, par exemple, un jeu auquel je m'étais beaucoup marré, c'était un jeu de crocs aussi, c'est Innominé Satanis.
Personne ne connaît ce jeu ici.
Alors bon, c'est un classique, mais
Cobalt quand même.
moi je pense que les jeux auxquels j'ai joué en tant que jeu du commerce entre guillemets, enfin les jeux, ça c'est des jeux, c'est les gros classiques, quoi. J'ai, me semble, à part Raoul peut-être.
Qui est gros.
Ouais. Non, je ne dirai rien.
Je te laisse ce silence évocateur. Oui, donc des jeux classiques, à part, oui, effectivement, qui est quand même plutôt de l'indépendant.
Ouais, mais là, par exemple, là, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent ici, enfin, en Radio Rollis, j'ai l'impression que c'est quand même, enfin, vous êtes tous des spécialistes, quand même, du jeu, les gens qui écoutent sont des spécialistes, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui, comme je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'ils jouent à des jeux de rôle et qui ont envie de jouer à des jeux de rôle traditionnels, entre guillemets, quoi? Parce que moi, par exemple, le MMORPG, pour moi, c'est pas vraiment du jeu de rôle. Enfin, je considère pas ça comme du jeu de rôle, quoi.
Ah bah non, c'en est pas.
Loin de là.
Pour la première question, pour l'action sur les jeunes, je sais pas. À une époque, je connaissais des jeunes.
Ouais.
Entre guillemets.
Oui, quand on était jeunes.
Non, mais même un peu plus tard, mais là, beaucoup moins, quoi. Et enfin, je connais pas des gens qui ont 20 ans de moins que moi. C'est vrai, j'avoue. Donc, je sais pas s'il y a 15 ans, actuellement, on joue beaucoup. Et puis, tu fais une remarque sur les MMORPG. Je ne vais pas parler de certains MMORPG de science-fiction édités par des éditeurs islandais. Mais, juste pour faire une remarque, pour rester sur le même ordre d'idée, je suis d'accord avec toi. C'est des loisirs différents. Et même quand on fait du jeu de rôle dans des MMO, et même quand le MMO s'y prête très bien, bah c'est une autre variété de jeux de rôle qui est différent, mais qui est ni meilleur ni moins bien.
Non, ça peut être très intéressant, très ludique, hein, je dis pas le contraire.
Mais qui est clairement différente, sensations différentes et des qualités utilisées qui sont différentes.
Bah c'est ça, c'est un peu moi. C'est vrai que je saute un peu sur mes gonds à chaque fois que je vois dans les jeux vidéo, quand on parle de jeux de rôle.
Ah oui, moi,
je trouve ça toujours un petit peu mal.
Ça me fait sursauter aussi.
C'est pas une question de...
Alors, je sais pas si tu es un joueur de MMO ou pas.
Non.
Toi non plus.
Je fume, mais
j'ai testé les MMO quand même.
Il y a vraiment des communautés de roleplayers cachées dans les tréfonds, des grosses communautés qui ne sont pas du tout roleplayers et pour lesquelles roleplayers c'est quasiment une insulte. Et il y a des communautés de roleplayers qui sont des fanatiques du jeu de rôle et qui font des trucs super. Le dernier truc que j'ai vu, c'était. Je vais pas en parler parce que j'ai promis de pas en parler. Mais bon, il y a des petites communautés. Il faut qu'elles soient quelque chose.
Tu peux parler de EVE Online si tu veux. Allez, vas-y.
Alors, juste un truc, une anecdote rigolote. Il y a eu un patch de EVE Online il y a pas longtemps et ils ont changé une petite capacité technique des stations spatiales en gros. Et en fait, mine de rien, ça cassait. Et c'est comme ça qu'on a pu en prendre connaissance. Ça cassait un projet roleplay d'un petit groupe de joueurs qui, en fait. Il y a une partie de l'espace, une partie des systèmes solaires d'EVE Online qui s'appelle l'espace Wormhole, à trou de ver. C'est un espace qui est séparé du reste de l'espace connu et où on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, etc. Et j'utilisais cette fonctionnalité avec les stations spatiales pour essayer de situer cet espace Wormhole, à trou de ver, dans la simulation 3D de l'espace d'EVE Online par rapport à l'espace connu. Dire, ah bah oui, alors là, ça a 300 années-lumière.
En fait, ils ont essayé d'isoler un univers.
Et en fait, ils ont fait des vrais calculs mathématiques. Tu vois une page d'équation pour à partir de ces données qui étaient fournies dans le jeu. Et c'était pas du tout le but de l'éditeur du jeu de créer ce type de comportement. C'est un effet secondaire. Mais ils se sont mis dans la peau des pilotes spatiaux, etc. Mmh. Ils se sont dit, mais où est ce mystérieux espace à tout de vert ? Et ils ont fait des calculs comme ça pour essayer de localiser par triangulation.
Ça, c'est
quoi.
Excellent, ça.
Ben, c'est hallucinant, parce qu'en plus...
Mais là, on est dans le jeu de rôle, enfin, ouais, entre guillemets...
Le pire, c'est que l'information est disponible hors jeu, parce qu'en fait, elle est dans le data dump, ouais. dans l'API, etc.
Mais ils ont voulu jouer le jeu.
Et ils ont voulu jouer le jeu, donc ils ont fait des calculs...
Mais ça, c'est vachement bien.
Absurde, quelque part, mais ils étaient à fond dedans, quoi. Et,
Mais je trouve ça super, ça.
Et c'est leur casser leur trip.
Et ça leur a un peu cassé leur trip, mais en même temps, ça m'a permis à moi de le connaître, donc je suis content, en fait.
Oui, d'accord, ok.
Ouais, mais non, mais ça, c'est parce qu'il y a de l'ouverture.
Il y en a d'autres qui écrivent des nouvelles, mais ça, c'est comme la fanfiction, etc. Enfin, qui s'impliquent à fond, qui créent tout un arc narratif pour leurs personnages, etc. Ouais. Moi, la première corpo d'Evenline où j'étais, c'était une corpo de roleplayers. Et donc, toutes les communications en jeu, sauf en privé si on voulait, mais étaient dans un peu du personnage, vraiment. Et celui qui est devenu le CEO, le PDG de la corporation, parce que les guildes sont des corporations dans Evenline. Après mon départ, parce que j'étais parti en tout temps, mais il a trahi la corporation et en fait c'était un agent double et il a détruit son personnage parce que voilà, il était dans le trip et puis bah, peut-être certainement il voulait passer à autre chose, mais il a fait ça en roleplay
et
il a laissé des tas d'indices durant des mois avant, c'est-à-dire il a vendu une partie de la corporation à la corporation ennemie, enfin PNJ, mais enfin personnage non joueur. Donc voilà, il y a quand même des gens qui s'éclatent à s'imaginer, à construire des histoires dans les MMO, même si on est d'accord, c'est pas du jeu sur table, c'est pas la même chose.
Ouais, mais je l'avais vu, je sais plus c'est quoi, c'est la quatrième prophétie, un jeu,
ouais.
C'est ça ?
Ah oui,
ouais.
Ouais.
J'avais vu justement, mais c'était il y a 6 ou 7 ans, il y avait des mariages. Au sein même de joueurs, genre le truc, etc.
Les mariages, c'est ça pour le coup, t'en trouves dans tous les MMO, hein, c'est folklore.
Oui, mais il y a 6 ou 7 ans, c'était encore un petit peu nouveau quand même.
Je pense que c'était il y a même plus de 6 ou 7 ans, la quatrième prophétie.
Mais ça, c'est bien parce que moi je trouve ça bien dans le sens où ça casse en fait. Enfin, c'est-à-dire que voilà, l'éditeur propose un jeu et les joueurs en fait finalement en font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc là-dedans, on est dans je trouve dans le cadre ludique. Alors, du jeu de rôle à proprement parler.
Il y a deux types de jeu de rôle. C'est il y a le jeu de rôle où le but est de montrer une histoire comme un bon film. Et dans ce cas-là, tu laisses peu de liberté au joueur puisque le but c'est de l'amener sur cette.
Oui, oui, c'est plus linéaire.
C'est plus linéaire. Et d'autres où c'est plus l'expression consacrée, c'est le bac à sable que tu donnes aux joueurs. Et là, ils peuvent s'amuser à construire leur propre château et à construire leurs propres histoires ou détruire leur propre château. Et ça, c'est vrai que c'est génial.
Ouais, mais c'est bien, mais moi, c'est vrai. Mais c'est-à-dire que toute une réflexion de un peu. C'est vrai que quand je joue, j'aime bien l'aspect relationnel, en fait, entre le joueur et les personnages non joueurs.
Ouais.
Tu vois, et comment, en fait, l'aspect relationnel peut rentrer en compte dans l'action.
C'est là où les vrais trucs se construisent, en fait.
Bah, c'est-à-dire que, effectivement, finalement, tu peux te battre avec ce mec, mais tu peux aussi le convaincre. Mm. Et si tu le convaincs,
tu as gagné.
Et peut-être que ça existe effectivement dans les MMORPG.
Un de mes meilleurs souvenirs en jeu de rôle, j'avoue, c'était une partie où il y avait juste un joueur, un MJ. Bon, le joueur avait été séparé des autres quelque part. Il était allé dans un endroit et le portail s'était fermé. Enfin bref, les autres n'ont pas suivi. Et il allait dans. Enfin, bon, je vais vous passer les détails parce que après ça va faire style le vendeur de Love Cube qui est obligé d'écouter le.
le mec qui fait sa partie le vendredi soir. Hein.
Mais en gros, quand même, il y a quelque chose qui s'est passé que j'avais pas attendu ou espéré ou préparé. C'est le personnage joueur. Il y a une idylle qui est née entre un personnage non joueur et un personnage joueur. Mm. Et ça s'est fait naturellement. Et c'était dans la logique des choses quelque part et c'était assez rigolo de voir ça, quoi, inattendu. C'est les surprises, les bonnes surprises et c'est pas évident d'avoir des relations fortes qui se nouent entre PNJ et PJ. Et parfois, ça joue sur des petits personnages récurrents qui petit à petit prennent de l'importance.
Ouais, exactement, ouais. Ouais.
Et un gag, etc. Et puis, c'est, je sais pas, sur un bateau, ça va toujours être la même personne qui répond au capitaine. Et puis, Le MJ va lui donner un petit quelque chose qui va le rendre un peu plus consistant.
Je pense que c'est parce que le MJ s'attache plus à un personnage non-joueur, il a envie de le faire jouer, quoi,
ouais,
tout simplement.
Aussi,
quoi.
Ouais.
Ouais, il
l'aime bien,
il a envie de s'éclater un petit peu lui aussi et de jouer un rôle et, de faire autre chose que de régler les conflits à base de dés, quoi.
Je pense que bon, vous savez mieux que moi, il y a différentes approches en fait quand on joue, mais. Moi, c'est vrai que je suis plus dans l'approche vraiment un peu, entre guillemets, role-playing, à proprement parler, que l'aspect un peu plus classique. La fiche de perso doit être très précise, elle a pris du temps à se mettre en place, etc. Ce qui est très bien aussi, mais moi, il y a différentes choses. Quoi.
T'es plus dans le dialogue que dans l'échange de balles.
Ouais, et pourtant, j'aime bien l'échange de balles aussi, quoi. Mais je préfère l'échange d'épée, par exemple.
Mais il faut qu'il soit cool, l'échange de balles.
Ouais, c'est ça, voilà. Il faut donner...
Bullet time.
Par exemple, je me souviens de ma première partie de Cops. Je me souviens
Cops, ah oui, c'est vrai.
J'avais trouvé que ce jeu était trop cool parce que c'était notre première partie, on connaissait pas les règles et tout. Et donc, on était en poursuite en voiture et il y en a un qui fait je peux tirer par la fenêtre pour tirer sur le mec de devant. Le type, il fait ouais, vas-y. Et on s'est regardé, on a fait « Ah ouais, c'est cool !» Parce qu'on pouvait faire des vraies poursuites en bagnole comme dans un jeu, comme dans une série de flics, quoi.
Ouais.
Et c'est retrouver aussi les poncifs d'un genre pour pouvoir se les approprier et jouer avec et s'amuser, quoi.
Retrouver le lieutenant, le petit chef qui t'emmerde et qui te demande de signer le formulaire pour chaque balle, etc.
Le petit gros qui a été recalé à la visite médicale et qui du coup est obligé
attendant
de...
pour les armes, non?
Oui, voilà, qui du coup s'occupe des armes et tu passes des heures à essayer de le convaincre de te passer un chargeur de plus ou de faire réparer ta voiture que t'as embouti malencontreusement dans un landau ou un truc comme ça.
Ouais. Bon. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien me dire l'idée de me dire que le jeu de rôle, en fait, c'est pas un jeu de société, mais n'importe qui peut faire des jeux de rôle, quoi, finalement.
Non, ce que je veux dire. C'est réservé à une élite.
Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais il y a toujours ce truc avec, il y a toujours ce truc un peu comme ça, un peu le stéréotype très extrêmement flou, extrêmement méconnu. Quand tu dis jeu de rôle, les gens ils savent pas du tout quoi tu parles, mais ils ont une espèce d'idée quand même derrière. Ouais. Qui est complètement mal placé.
C'est un cimetière.
Oui, c'est ça. C'est, ils ont les... c'est,
j'ai un pote qui fait aussi un autre podcast sur le jeu de rôle et qui disait ouais, c'est marrant, le jeu de rôle, c'est l'une des rares activités où en fait c'est vachement difficile de décrire ce que c'est. Et en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est tu maîtrises une partie à des débutants et tu fais voilà, c'est ça.
Non, mais c'est ça, ouais.
Et le truc, c'est que en maîtrisant cette partie, tu vas avoir des comportements ou en tout cas adopter une certaine technique de maîtrise qui sera pas du tout celle du mec qui habite à deux rues de chez toi. Mais simplement, tu vas formater le fait qu'une partie de jeu de rôle, c'est comme ça, dans l'esprit du mec à qui tu le
montres. Ah, mais c'est clair.
Et donc, du coup, ça peut changer énormément de choses sur le long terme, finalement.
Et autant on peut numériser la création d'un monde fictif, l'animer, faire des histoires autour. Autant le jeu de rôle et sa diversité, puisque chaque partie est différente, on peut pas le copier, on peut pas.
Mais c'est un peu pour ça que je faisais un peu la comparaison, peut-être une comparaison un peu maladroite entre le MMORPG et le jeu de rôle. Je sais pas si la comparaison a vraiment lieu d'être.
Si, ça a lieu d'être.
Elle a lieu d'être un peu.
Ça utilise aussi les mêmes codes, d'une part, et puis les mêmes contextes, les mêmes settings, les mêmes mondes.
Sensiblement,
ouais. Et les mêmes gens, parce que les joueurs sont certainement passés plus vers le jeu vidéo, hein, parce que c'est plus facile, on peut le faire chez soi, etc. Enfin,
ouais,
à
ouais.
toute heure.
Mais simplement, tu seras toujours forcément. Bon, il y aura l'aspect visuel, il y aura l'aspect sonore, il y aura l'immersion qui sera différente sur la forme, mais finalement, enfin moi, ce que j'aime bien dans le jeu de papier entre guillemets, c'est que tu peux tout faire, vraiment tout faire. T'as aucune limite, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que je trouve que ça devient intéressant en termes de jeu. C'est ça que je veux dire. C'est pas intéressant parce que tu peux tout faire, c'est parce que ludiquement parlant, ça permet beaucoup plus d'ouverture. Enfin, tu peux faire un jeu de rôle avec des avocats et des procureurs.
Ouais,
tu vois. Et donc là, si tu fais, il y a des jeux de rôle comme ça, il y a des jeux vidéo qui existent comme ça. Mais
objection.
Si t'as une autre idée, tu peux pas la mettre en place parce qu'elle n'existe pas, elle est pas programmée. Alors que là, tu peux la faire exister, quoi. Ouais, c'est ça que c'est pour ça que moi en fait je suis venu un peu au jeu de rôle, c'est parce que j'aimais cette ouverture d'esprit, même sur les bouquins, quand tu lisais l'univers, etc. Je me disais, en fait, les gens te proposent quelque chose, quoi.
Pour l'extrême liberté, ouais. Finalement, que ça te procure, ouais. À partir d'un matériau de base que ouais. Tout le monde a. Après, on peut faire 1000 interprétations différentes qui seront...
Bon, ouais, ouais, ouais. Enfin, je parle de choses basiques, mais c'est... voilà. Je trouve que c'est toujours bien de s'en rappeler un petit peu, quoi. Surtout quand on joue beaucoup et quand on joue depuis longtemps, j'imagine qu'on est un petit peu dans les mécanismes et c'est bien des fois de se dire, oh, peut-être que je pourrais complètement casser le truc et essayer de faire quelque chose d'autre, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est par rapport à une base qui est déjà un socle,
oui.
Quoi.
Oui, oui, une base commune, connue.
Ou,
de
oui, ou par rapport à un jeu, un jeu ouais. Existant, mmh. Mmh. Où il y a des règles, il y a des trucs, etc. Quoi.
Par exemple, tu peux prendre le jeu et puis tu peux décider de changer l'époque, par exemple, de le mettre dans le futur, avec des mécas.
Voilà, par exemple. Ouais. Ouais. Bah, les fils, maintenant, on pourrait faire maintenant, au 20e siècle. Sauf que là, on aurait des guns.
Ah ouais.
On peut très bien décider d'écrire le quatrième âge pour le Seigneur des Anneaux.
Quatrième âge, oui. Mais je sais pas si ça n'existe pas déjà.
Mais
ça.
Si, c'est déjà fait. Ben, je crois que JRTM, l'une non. des versions, se passe au quatrième âge.
Au quatrième âge ?
Ouais, oui, après la chute de Sauron, tout ça.
Alors
tout
au
ça,
cinquième âge. Ah, je sais plus quoi dire là.
Fais-moi le malin là. Oui, oui, c'est vrai. Après, tu peux toujours interpréter, dériver, dévier du truc. Bon, je crois qu'on en est à beaucoup d'heures d'enregistrement.
Voilà. On a divagué, là.
Oui. Nous en sommes à 3 heures.
Oh, putain.
Donc, j'en conclue que tu n'as pas entièrement atteint ton objectif de redire 145 minutes.
Il va y avoir du mixage. Hein.
mais je pense qu'il y a au moins 45 minutes de blanc et de trucs comme ça à virer. Donc, voilà.
Une demi-heure.
Non mais en fait j'ai commencé l'enregistrement un peu avant qu'on commence vraiment non. Donc voilà. Bon je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, une espèce de mot de la fin. Alors est-ce que tu rejouerais
parle-nous peut-être un tout petit peu de ton podcast.
Alors oui, alors
oui,
l'apéro du Captain, donc qu'on peut trouver sur iTunes, c'est aussi sur le site captainweb.net et aussi sur freepod.net. Et avec Freepod, donc c'est une association qui regroupe plusieurs podcasts. On fait des soirées thématiques au Max Linder une fois par mois. La prochaine, c'est
Miyazaki.
Voilà, c'est demain. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ce sera pas celle-là.
Mais toute façon, c'est Miyazaki. C'est complet,
voilà. Et avant ça, il y a eu une trilogie Evil Dead. Avant ça, il y a eu
Retour vers le futur.
Et la prochaine, qui aura lieu fin avril, ce sera un thème qui mélange jeux vidéo et science-fiction. Voilà, donc il y aura, en fait, c'est plutôt sur le jeu vidéo, dans le cinéma, en fait.
Non,
donc,
pas,
voilà, effectivement, il y aura War Games,
Tron,
il y aura Tron, et il y aura The Last Starfighter, qui est un jeu qui est sorti, c'est un film, pardon, qui est sorti dans les années, au moment de l'Empire Contre-Attaque, qui est passé un peu inaperçu à cause de Star Wars, mais qui est un très bon film. Enfin, pour l'époque. Et même encore maintenant, c'est le côté un peu vintage, tout ça, quoi. Voilà, donc c'est une soirée au Max Linder et vous pouvez vous inscrire sur Freepod, enfin, vous pouvez passer par Freepod ou sur Allociné, tout ça, etc.
D'accord. Et d'ailleurs, alors, j'ai pas écouté le deuxième épisode du Free Podcast.
Ouais.
Parce que j'ai pas eu l'occasion. Je bossais, je crois, ce jour-là. et donc du coup, est-ce que ça a été un peu explicité les conditions d'accès à Freepod?
Alors ouais, alors les conditions d'accès à Freepod, c'est un petit peu compliqué uniquement parce que on est un petit peu bordélique au niveau de l'organisation, c'est normal, hein, on a du mal un petit peu à se retrouver ensemble. Mais si les gens donc veulent déposer leur podcast pour être sur Freepod, il faut nous envoyer un lien et puis après on regarde. On reçoit pas mal de trucs, donc c'est pas évident de se mettre d'accord et tout. On est en train de mettre ça en place. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de choses avant, je pense, 4 mois, 5 mois, quoi.
Ah ouais.
Voilà. En plus, il y a des problèmes d'hébergement et tous les problèmes techniques derrière, donc on peut pas prendre d'accord. tout le monde et c'est un peu compliqué d'après ce que j'ai compris quoi. Voilà. Mais
en,
bon.
En gros, il est en train de te dire que tu pues et qu'il veut pas de ton podcast de merde.
Exactement. Je déconne. Non, non, non. Ouais, non, mais si, si, oui. Pourquoi pas.
D'accord. Très bien. Je... Question au hasard, tout ça. Donc, toi, on peut te retrouver sur Twitter, tout ça, sur Fiontus, mais tu tweets jamais.
Si, si, je tweete de temps en temps, ouais.
Ah oui.
Aujourd'hui, j'ai tweeté une vidéo, par exemple.
Ah, vache.
Voilà, donc je tweete at Fiontus.
At Fiontus.
Sinon, ben, sur le CaptainWeb.net voilà. et FreePod.
Et on te retrouve tous les mardis soirs à partir de 23h30, minuit, 1h.
Ouais, voilà, enfin, très tard dans la nuit. Et puis, venez écouter, c'est
le
bordel.
Et le dernier épisode, il a été à l'heure. Je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Ouais, mais il a fini très tard. Donc ça change rien, on se couche tard quand même. Le problème.
Bon, et eh ben merci Manox.
Merci à vous les gars.
Merci Manox.
C'est Cyril parce que
venu nous visiter et puis bah écoute si tu veux revenir tu es le bienvenu.
Avec plaisir.
Et puis voilà bon le Cyril tu auras t'as quelque chose à dire. Donc, comme d'habitude.
oui mais là on va manquer de temps donc je peux pas.
Bon, eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit au mois prochain.
Ouais.
Et voilà. À ciao.
Salut.
Ciao.